Bonjour Père Thaddée, comment allez-vous?
Je vais bien, Père. Bonjour.
Dieu soit loué. Dites-moi alors, c'est une joie de découvrir cette congrégation du Saint-Sacrement. Il me semble bien, en tout cas, qu'elle est venue de ce grand apôtre de l'adoration sacramentelle et de l'Eucharistie, qui est Saint Pierre-Julien Aymard, n'est-ce pas?
C'est ça. C'est ça. Oui. Oui. Saint-Pierre-Julien Aymard est né à la Mure d'Isère le 4 février 1811. Et le dixième et dernier enfant de Julien Aymard et de Madeleine Perlos, et donc épousé en secondes noces. Alors, lui, il est le quatrième de, disons, de ces mariages. Le jour après, le 5 février, eh bien, le père Aymard reçoit le baptême dans l'église paroissiale, qui est une ancienne église paroissiale, qui est actuellement une chapelle dédiée à Saint-Pierre-Julien Aymard. Alors, l'enfant a un grand attrait vers l'Eucharistie. Un jour, il disparaît de la maison et on le cherche, et bien on le trouve, la tête collée au tabernacle de l'église. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais ici, j'écoute mieux Jésus. Alors, il se prépare à sa première communion. Il fait beaucoup de pénitences et il en profite aussi pour se rendre au sanctuaire du Lot parce qu'il avait un vif désir de se faire accompagner par la Vierge Marie. Alors, le 16 mars 1823, il reçoit sa première communion et il a un grand désir de devenir prêtre. Alors là, c'est une région qui était tenue par les Pères Oblats de Marie Immaculée. Il va rencontrer un prêtre qu'il avait déjà rencontré d'ailleurs au sanctuaire du Lot. Il s'appelle le Père Touche, qui, voyant cet enfant prier, dit, c'est mieux que tu deviennes prêtre. Mais il est en difficulté parce que son papa ne veut pas. Il est l'unique garçon qui est resté. Et le papa voyait donc l'héritage, confier l'héritage à l'unique garçon. Et le papa ne voulait donc pas que l'enfant s'engage vers la vie religieuse. Alors, et là, heureusement, il y a un père qui est passé, un père missionnaire oblat, qui s'appelle Père Guibert, qui après deviendra l'archevêque de Paris, qui lui demande de devenir oblat de Marie Immaculée, donc aller à Marseille pour commencer son expérience de noviciat. Et il convainc le papa de laisser partir l'enfant. Et donc, il commence sa formation chez les oblats, comme il est admis comme novice. Malheureusement, il est de santé fragile. Il tombe malade et finalement, il est renvoyé à la maison. Et après qu'il soit renvoyé, il guérit. Et puis, il voit Monseigneur Mazeno, le Père Mazeno, qui deviendra après évêque. Actuellement, il est saint de ce diocèse. Et il lui demande s'il peut rentrer dans la congrégation. Eh bien, le père Mazeno ne voulait pas qu'il rentre, mais il lui donne une recommandation pour aller dans le diocèse de Grenoble. Et là, il est admis, il va commencer sa formation et il devient prêtre, là toujours à Grenoble, donc en 1834. Il devient prêtre et il est envoyé comme vicaire à Chatte. Chatte, c'est dans le doyenné de Saint-Marcellin. Et il prie beaucoup des heures d'adoration. Et comme jeune prêtre, il passe beaucoup de journées, il dit en tout cas, il se forme. Comme il n'avait pas de bonne formation, il se forme dans la théologie, les différents domaines, les Écritures saintes. Et puis il prie beaucoup. Il est même arrivé à dire qu'un prêtre qui passe sa journée sans lire la parole de Dieu aura perdu sa journée. Alors après 3 ans, il est là, toujours vicaire à Chartres, il fait une forte expérience. Un jour, il va accompagner son curé qui était en promenade. Ils arrivent à Saint-Romain, c'est proche de Chartres. Il arrive là-bas, et bien pendant que les deux curés étaient en conversation, c'était des amis, et bien le vicaire, il va en promenade. Et il rencontre un endroit, un bel endroit, un rocher, le rocher Saint-Romain. Là, vraiment, il fait une forte expérience. Il découvre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pour lui, c'est vraiment un basculement de sa vie, parce que en son temps, c'était le temps où on faisait beaucoup de pénitences, où on voyait Dieu comme quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui punit. On avait une spiritualité un peu doloriste, beaucoup d'accent sur la pénitence, la crainte de Dieu. Mais là, vraiment, il découvre l'amour de Dieu. Il dit, il faut voir les choses du côté de l'amour de Dieu. Alors après, là, il est envoyé curé à Monténard. Monténard, c'est à 15 km de la mure. Il est attentif à la catéchèse, aux pauvres, aux malades. Il écoute les gens et il attend même les paysans de leur retour des champs. Il prend leurs nouvelles de santé, il demande les récoltes. Vraiment, il est attaché aux personnes, très, très, disons, beaucoup d'humanité. Il manifeste beaucoup d'humanité. Alors, un jour, il rencontre le Père Touche. Le Père Touche, c'est lui qui l'a rencontré auparavant au Lot, qui lui a demandé de devenir prêtre. Il le rencontre là-bas. Le Père Touche lui annonce qu'à Lyon, il y a une nouvelle congrégation de maristes, une congrégation qui est vouée à Marie et qui organise des expéditions de missionnaires pour l'Australie. Eh bien, il sent un appel pour aller vers cette congrégation-là. Il quitte Monténard et les paroissiens. Ces paroissiens sont vraiment étonnés, tout étonnés de le voir partir clandestinement pour Lyon. Il arrive à Lyon. À Lyon, donc, il fait son parcours comme religieux. Il devient là assistant du supérieur général. Alors, quand il était à Lyon, le curé d'une paroisse proche, la paroisse Saint-Paul, lui demande de présider la procession de l'adoration du Saint-Sacrement. Ce fut un 25 mai 1845. Alors, pendant qu'il présidait cette adoration, il fait une forte expérience eucharistique. Alors, une adoration d'une procession qui a duré 2 heures, eh bien, le père Aymar a vu ça comme c'était vraiment quelques instants. Il a consigné ça d'ailleurs dans ses notes personnelles. Il a été saisi donc par la pensée du Seigneur qui était présent dans l'Eucharistie. Alors il reçoit une grâce particulière qui le pousse. Il dit en tout cas, moi je suis appelé à prêcher et à honorer d'une façon particulière l'Eucharistie. Et il dit en plus, je suis appelé à me nourrir de la pensée de Saint Paul et de ses épîtres. Et Saint Paul qui a beaucoup aimé Jésus crucifié. En 1845, il va prêcher le carême à l'hôpital de la Charité, toujours à Lyon, et là, il rencontre une dame, une demoiselle, Marguerite Guillot, et qui l'écoute en confession. Et il développe un peu des amitiés avec cette dame-là, qui plus tard, il va placer comme responsable de sa branche masculine féminine. Lyon, donc, vraiment, c'est le lieu où sa vocation est née. Et Lyon, pour lui, vraiment, c'était un moment important, un lieu important de sa vie, une ouverture officielle sur le monde et sur la société. Alors là, un jour, il était en prière à la basilique des Fourvières. C'était un 25 janvier 1855. Il comprend qu'il faut faire quelque chose pour l'Eucharistie. Alors, il tient compte des besoins de l'Église de cette époque. Quels étaient les besoins? C'était d'abord le manque de formation pour les laïcs des hommes, le manque de dévotion au Saint-Sacrement, les réparations en fonction des sacrilèges qui étaient commis. Et il souhaite donc qu'il faut quand même faire quelque chose pour répondre à ces besoins-là. Et il sent un besoin vraiment d'avoir quelque chose, une branche, une congrégation, qui est voué au culte de l'Eucharistie. Il est nommé peu après, en 1851, supérieur du collège Notre-Dame de la Seine à Toulon, je pense, vous avez père.
Oh, vous me faites sourire, évidemment, j'ai grandi et mon lycée était à côté, que ce saint ait foulé cette terre et les lieux où j'ai grandi petit, en effet, oui, à l'école des Maristes, oui, à la Seine-sur-Mer.
Voilà, justement, la Seine-sur-Mer, c'est là qu'il était, c'est là. Donc c'est là vraiment que cette pensée est restée avec lui, qui n'arrivait plus à quitter, cette pensée ne le quittait plus. Il continue à la mûrir et le père Aymar comprend que vraiment il faut qu'il parte pour l'Eucharistie, pour faire quelque chose pour l'Eucharistie. Et donc il trouve que l'Eucharistie, vraiment dans l'Eucharistie, Dieu se donne et qu'il nous appelle à partager cet amour. Et lorsque l'homme comprend cela, il essaie de partager cet amour, eh bien, il retrouve sa dignité. Là, il rencontre un père qui s'appelle Père de Cuès, qui s'occupait des tiers ordres de Marie, donc dédié à l'adoration. Et mon père, je peux vous dire vraiment, Toulon, chez vous, c'était un lieu où il a beaucoup prêché. Et chaque fois qu'il quittait Toulon pour aller à Marseille, il passait toujours, il quittait Paris pour Marseille, ou il quittait Marseille, de son chemin de retour, il passait toujours à Toulon. Alors, chez le Père Emma, donc, mais ce n'est pas une question de tiers ordre de Marie, c'est plutôt un ordre de religieux qui est dédié au Saint-Sacrement. C'est ça vraiment son grand désir. Alors, à partir de là, il sent un tiraillement, un défi de choix entre son appartenance chez le Mariste et son nouvel appel, et qui est fort de fondation d'une congrégation. Il fait une retraite et au bout de laquelle il décide de laisser le Mariste pour s'engager pour son projet de fondation. En 1856, il va rencontrer à Paris Monseigneur Cibourg, qui était archevêque du lieu, et il lui soumet ce projet. Et Monseigneur lui dit, mais les congrégations vont à l'Eucharistie, eh bien, j'en ai beaucoup ici, je ne vois pas comment ajouter encore une autre congrégation pour l'Eucharistie. Il dit, non, Monseigneur, nous ne sommes pas là seulement pour adorer, mais nous sommes là aussi pour faire adorer, mais aussi nous allons nous occuper de la première communion des adultes. Il dit, ah voilà, ça c'est l'œuvre qui manque, mon fils, tu es bienvenu. Alors il le reçoit, donc il fonde sa congrégation à Paris, ça a commencé là. Et plus tard, il va rencontrer Marguerite Guillot et il l'appelle de le rejoindre à Paris pour commencer la branche féminine. Marguerite Guillot était de Lyon. En 1859, il va à Rome, comme il a sa congrégation, il a l'aval de Monseigneur de Paris, l'archevêque de Paris. Il va maintenant demander une approbation proche de près du Saint-Père. Il se rend à Rome le 5 janvier 1859, et il en parle, et finalement, le pape, c'était le pape Pie IX, qui lui octroie l'approbation de son œuvre, une approbation, disons, de son œuvre. Alors, en 1863, il va faire une retraite d'une semaine au couvent des Pères Passionnistes, un couvent qui domine le Colisée, et là, il essaye d'écrire en grande ligne les cadres de vie, les constitutions de sa congrégation. Il arrive à les rédiger et il dit, voilà, moi j'ai cherché un cadre pour ma congrégation, je l'ai, mais c'est l'extérieur, mais maintenant je vais m'occuper de l'intérieur. L'intérieur, c'est donc sa sainteté. Alors il achève sa retraite à Pentecôte, donc cette année, en 1863, et avec le souci de se laisser guider par l'Esprit-Saint. Alors, il va demander à Vatican l'autorisation d'ouvrir une communauté à Jérusalem. J'ai dit là, au Cénacle, où le Christ a institué l'Eucharistie. Il attend la réponse. Alors, pendant qu'il attendait la réponse, il a préféré prendre un moment de retraite. Il va s'occuper de son intérieur, donc de son cœur. Il fait une retraite, une longue retraite d'ailleurs, de 65 jours, il a fait chez les rédemptoristes. Ils sont près de Sainte Marie Majeure. Alors, il essaie de revoir un peu sa vie personnelle, approfondir sa vie personnelle. Alors, il découvre que Dieu l'appelle à un autre cénacle, le cénacle de sa vie intérieure. Au fait aussi, pendant qu'il attendait cette réponse, la réponse est négative, le Vatican lui déconseille d'aller ouvrir une congrégation à Jérusalem. Il dit, bon, ce n'est pas un problème, mais il découvre son cénacle intérieur. C'était le 21, donc mars 1865. Alors là, il fait un vœu, il appelle ça un vœu de personnalité. Donc pour lui, vraiment, grâce au feu de l'Eucharistie, il dit, l'Eucharistie nous transforme. Et que Jésus m'aide, qu'il puisse prendre la conduite de ma vie. Il dit que c'est toi, Seigneur, qui dois me conduire, ce n'est plus moi. Donc là, nous sentons un peu la phrase de Saint Paul qui dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis en toi, mais c'est plutôt le Christ qui vit en moi. Donc il dit, vraiment, il fait le vœu pour que son cœur soit vraiment le cœur de Dieu, son âme, l'âme de Dieu, les pensées du Christ. Et donc, il laisse la place au Christ diriger sa vie. Alors, il en sort vraiment transformé de cette retraite, bien, malgré que la réponse ait été négative, mais il est vraiment transformé à l'intérieur. Donc, il découvre cette grande grâce et il est, pour nous, vraiment, c'est le sommet de son itinéraire spirituel. Donc, nous voyons là comment la congrégation est née. Nous avons vu tous ces parcours, la procession du Saint-Sacrement à l'église de Saint-Paul et surtout à Fourvière où il a il voit ce besoin de l'église, de la formation de laïcs, de l'adoration, la dévotion au Saint-Sacrement. Et donc, et puis, ajouté à cela, c'est cette grande découverte de l'amour de Dieu qu'il fait dans son cénacle intérieur le 21 mars donc 1865. Alors, c'est là un peu cette découverte de l'amour de Dieu, du feu eucharistique, qui pour lui vraiment c'est une grande spiritualité, notre spiritualité d'ailleurs, qui est la spiritualité de l'Église, la spiritualité eucharistique. C'est une vision du monde à partir du mystère qui est le cœur de l'Église, donc le mystère de l'Eucharistie. Découvrir le monde, voir le monde autrement, comme on peut dire, à partir de l'Eucharistie qui est la source, le centre et le sommet de la vie de l'Église. Alors, Père, en 1859, il va fonder à Marseille, voilà, et il sera à Marseille, il fonde une communauté. Et puis il a une autre communauté. Et puis il forme là aussi une branche laïque qu'on appelle l'agrégation du Saint-Sacrement. Donc une agrégation qui a, il dit l'Eucharistie, c'est pas seulement les hommes, les religieux, les religieuses, mais il faut aussi les laïcs. Voilà, il dit il ne voit pas sa congrégation sans collaboration avec les laïcs qui sont là évidemment pour faire connaître la spiritualité eucharistique à travers divers domaines, à travers la liturgie, le social, l'éducation, à travers tous ces différents engagements, eh bien, les laïcs qui sont membres de l'agrégation du Saint-Sacrement essayent de véhiculer, tant soit peu, la spiritualité eucharistique. Alors vraiment, nous pouvons dire que le siècle du Père Aymar, c'est le siècle de la découverte de l'adoration eucharistique. Le Père comprend que l'exposition de l'Eucharistie peut devenir une occasion d'évangélisation. Exposer l'Eucharistie, l'adoration, c'est vraiment une occasion d'évangélisation. Donc le Seigneur qui est exposé, il attire les gens à la prière. Donc lui, en même temps, il propose une méthode de prière devant l'Eucharistie qui reprend un peu une méthode, qui reprend la dynamique de la célébration eucharistique. C'est-à-dire une méthode qui est faite de louanges, d'actions de grâce, de demandes de pardon et de supplications. L'Eucharistie se déroule un peu suivant ces aspects-là, cette méthode-là. Dès que, voilà, c'est la méthode de la célébration eucharistique. C'est mieux aussi, si des personnes veulent prier l'adoration, cette méthode aussi peut les aider. Alors, il dit, pour lui, l'adoration, ce n'est pas seulement une dévotion comme ça, une réparation. Il dit, l'adoration, pour nous, sacramentins, l'adoration donc reprend un peu toute la dynamique de la prière eucharistique. Nous avons dit que selon sa méthode...
Elle suit le déroulement de la Sainte Messe, en fait, en quelque sorte.
Exactement.
Oui.
Beaucoup de personnes se demandent, mais devant l'adoration, comment est-ce que je peux prier? Bien sûr, il y a beaucoup de façons de prier, mais lui, il dit, bon, il met un cadre, comme on appelle ça, garde-fou, voilà. Pour lui, le garde-fou, c'est, voilà, suivre le déroulement de la célébration eucharistique, qui tourne toujours autour de la louange, autour de l'action de grâce, autour de la demande de pardon, autour de la prière pour les fidèles, voilà. Il dit, voilà, si vous avez une adoration dans ce sens-là, il dit, voilà, une bonne méthode de prière. Alors donc, on peut parler donc c'est une spiritualité aymarienne, voilà, une spiritualité qui a son centre dans le sacrement de l'Eucharistie.
Et qu'il a très bien développé dans ses ouvrages qui sont des mines et d'une richesse infinie pour tous les adorateurs, hein, c'est bon de le rappeler.
Tout à fait, donc il a, voilà, une chose, nous sommes passés un peu vite, il était de santé fragile, nous avions dit, que tous ses frères, ses sœurs étaient décédés en bas âge. Là, il y avait beaucoup de situations de pauvreté. Mais il avait une santé fragile tout le temps, des migraines tout le temps. Mais malgré cela, donc, il s'est donné beaucoup à la prière, beaucoup de prêches, beaucoup de comment on appelle, des conférences, beaucoup de retraites. Mais en même temps, il a beaucoup écrit, 17 volumes de grosses briques. On se demande mais de quelle manière il pouvait faire tout ce travail.
Il devait dormir 2 heures par nuit, je pense.
Voilà, justement. Et il l'a fait. Donc, il est né en 1811, il meurt en 1868. Donc, on voit pratiquement 57 ans, il a fait ce travail. On se demande de quelle manière a-t-il pu faire ce travail. En outre aussi, à propos de ses écrits, c'est une personne qui n'a pas eu une bonne, disons, une grande formation intellectuelle. Non, non, non. C'est une personne comme toutes les autres, mais quand on lit, sa manière d'écrire, on se demande même où est-ce qu'il a pu trouver une bonne façon d'organiser le texte, de présenter le texte. Voilà ce qu'on se demande un peu. Donc, c'est là la suite de l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie, donc, pour nous, ne se limite pas à l'aspect du culte.
C'est aussi une façon de lire la parole, c'est aussi une façon de rencontrer le prochain, c'est une façon de se situer au cœur de l'Église, au cœur du cœur de l'Église.
Effectivement. Donc l'adoration n'est pas seulement culte, l'adoration a aussi les aspects de l'apostolat. Et pour cela, il utilise une image, il dit le foyer et la flamme. Il dit le foyer a une flamme, c'est-à-dire une vie qui n'est pas eucharistique, si elle ne s'exprime pas, il dit une vie ne peut pas être eucharistique si elle ne s'exprime pas à travers des œuvres eucharistiques. Donc il avait une façon de s'approcher des personnes, une façon de les accueillir, une façon de les comprendre. J'ai parlé un peu brièvement de sa vie quand il était curé à Montenard, la façon dont il était avec les personnes. Il essaie d'imiter l'humanité du Christ. Voilà, on peut la voir un peu à la dernière scène, où il a devant lui, il a tous ses apôtres, les Judas qui les trahit, il a ses Pierre qui disait qu'il ne les connaissait pas, il a tous ces Thomas qui vont dire « mais si je ne mets pas les doigts ». Donc il avait une façon de les accueillir, une façon de les comprendre, et Saint-Pierre Julien Mar a essayé aussi d'imiter voilà, cette humanité du Christ, et ça c'était effectivement le fruit de sa spiritualité.
Parce que l'Eucharistie est l'humilité par excellence de notre Dieu, qui se laisse voiler, toucher, manipuler. C'est voilà. La rencontre dans l'humilité d'abord du Seigneur pour aller dans le lieu caché à l'intérieur de ses enfants, de ses créatures.
Voilà, exactement. C'est ce qu'il essaie d'imiter dans sa vie. Et on le voit justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects que nous n'avons pas beaucoup approfondis, mais comme vous avez dit, on voit un peu sa spiritualité, effectivement. Donc c'est une spiritualité missionnaire qui a de multiples aspects. Donc un peu ce que nous sommes, on essaie d'imiter cette spiritualité. Et on s'est contente.
Oui. Maintenant, venons à vous. Merci d'avoir mis avec tant de couleurs et avec tant de clarté cette grande figure de saint et qui a trouvé le chemin du cœur. Oui. Et maintenant, vous, alors je sais que vous êtes bien dans plusieurs continents. Je sais qu'il y a toujours les servantes qui sont à l'œuvre pour le Saint-Sacrement. Et des vénérables aussi, Giovanni Nadiani, Lodovico Longari, qui sont aussi proches des hôtels et des honneurs de la Cour Céleste, n'est-ce pas?
C'est ça, exactement. Oui, oui. Donc, nous sommes, oui, on est dans partout. Actuellement, nous sommes autour de 900 religieux et 350, 400 religieuses comme ça. On a 300 religieux qui sont des jeunes là, qui font leur expérience de congrégation. Nous sommes dans les 5 continents. Et dans la congrégation, mon père, beaucoup de jeunes, actuellement, viennent de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Et on a beaucoup d'espérance que tout se développera, va bien se développer. Dans la congrégation, nous avons, oui, de grandes expériences de personnes qui ont essayé d'imiter cette spiritualité. Notamment, vous avez bien cité, je suis content que vous ayez cité.
Oui, je ne pouvais pas manquer de les citer, évidemment.
Oui, oui. Il y a Longari fut un supérieur général, et il est italien et puis il est maintenant vénérable. Et on espère que nous prions beaucoup pour qu'il soit béatifié et puis canonisé. Et puis il y a Nadiani, encore un Italien qui était infirmier et il avait une grande dévotion à l'Eucharistie, était très humain. Alors là aussi, nous avons pu avoir cette obtenu, nous avons pu obtenir son, comment il est vénérable aussi actuellement. Alors donc, c'est ce que nous est, on a. Bon, dans la congrégation, nous avons un certain nombre de prêtres, et, disons qui sont beaucoup d'évêques effectivement dans la congrégation. Le dernier, c'est un Sénégalais qui était. Et comment, pour ceux qui peut-être auront connu le Sénégal, c'est l'actuel évêque de Kaolack. Il s'appelle Monseigneur Martin Tine. Il était un des derniers qui fut conseiller général. Donc, mon père, voilà, c'est un peu de cette manière que nous essayons de vivre l'Eucharistie. Nous ne sommes pas une congrégation qui avons des œuvres, des hôpitaux, des écoles ou une dévotion, disons. Nous sommes là au service de ce qui est au cœur de l'Église. Donc, nous sommes un peu, comme disait un ancien supérieur général, nous sommes des cardiologues de la vie de l'Église. C'est-à-dire, nous sommes appelés à faire marcher ce cœur de l'Église, l'Eucharistie. Donc, notre mission, comme on le voit, c'est une mission qui est actuelle, qui a du futur, voilà.
Mais c'est vous là, vous travaillez pour la postérité. C'est le champ dans lequel la semence germe à tous les coups. Il est dit dans la parole, un jour dans ta maison valent mieux que 1 000 ailleurs. Et c'est ô combien vrai pour l'adoration Saint-Sacrement. Vraiment que nos chers auditeurs entendent bien que tous les temps d'oraison qui prendront face au Saint-Sacrement, dans la
Oui.
présence voilée et tout aimable de notre Seigneur, c'est vraiment là où ils gagneront du temps, si je peux me permettre voilà, ce raccourci. Mon cher père, ça a été une joie de vous voir si animé et si enthousiaste pour faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices, pardon, cette grande figure et votre congrégation aussi qui prolonge ces intuitions profondes de Saint-Pierre Julien et Marc. Voulez-vous bien, pour nos amis auditeurs et auditrices, nous donner une bénédiction qui vient de vos heures d'adoration très précieuses?
Oui, mon père. En tout cas, avec grand plaisir et surtout, Toulon, pour nous, ce n'est pas n'importe quel lieu, comme je vous ai dit, c'est là où tout est parti de Toulon. En tout cas, avec beaucoup de plaisir, je vous accorde cette grâce que le Seigneur nous a accordée, que le Seigneur vraiment, vraiment bénisse tout Toulon, bénisse notre œuvre, la radio Maria, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà.
Amen, amen, et un grand merci à vous. Et
Merci
priez
beaucoup.
bien pour nous, mon cher père.
Mon père, merci beaucoup, je vous
Merci.
laisse.